Vous savez, les changements climatiques sont un sujet de discussion et un sujet d'étude très important et qui touche de plus en plus la population québécoise. Et ben justement, qu'est-ce que ça fait que chez la santé des gens, ces changements climatiques-là et tout ça? On va en parler avec le professeur Gabriel Blouin-Genet de l'École de politique appliquée. Bon matin, Monsieur Blouin-Genet.
Bon matin.
Alors, justement, je voulais vous emmener, là, ben, comme je disais, vous êtes un professeur à l'Université de Sherbrooke, vous possédez un doctorat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Vous êtes spécialisé dans les domaines de la santé des organisations internationales telles que l'OMS et les relations internationales. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir, enfin, en fait, de discuter de ce sondage que vous avez réalisé avec votre équipe en octobre sur près de 10 000 personnes qui ont mis en avant les préoccupations de la population québécoise par rapport aux enjeux climatique. Selon vous, tout d'abord, qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment de préoccupation pour les problèmes environnementaux? Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années, voire les derniers mois, pour cette préoccupation-là chez les Québécois?
Mais c'est une excellente question. En fait, nous, au sein de notre équipe, qui est vraiment une équipe multidisciplinaire, donc qui inclut des partenaires là, à la faculté de médecine, en communication, en sciences politiques, etc. Et donc, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est dans un contexte bien particulier, qui est un contexte où on assiste à une multiplication des crises. Donc, en même temps qu'on a une crise climatique là, qui perdure depuis longtemps, on a ajouté dans les deux dernières années une crise pandémique. Mm-hmm. Donc, nous, on a voulu sonder l'état d'esprit, si je peux dire, de la population québécoise à l'égard un peu de ces deux grandes crises qu'on traverse, entre guillemets, simultanément. Donc, la pandémie et les changements climatiques. Et on voulait essayer de comprendre un peu de quelle manière, finalement, ces deux crises affectent la santé mentale des Québécoises et des Québécois. Et puis, ce qui est intéressant dans nos travaux, dans nos résultats, c'est que, contrairement peut-être à une fatigue pandémique qu'on a pu observer et documenter, nous, mais aussi d'autres équipes de recherche, c'est-à-dire que la population est pour dire simplement, est tannée des mesures, donc respecte un petit peu moins la distanciation, le lavage des mains, bon, le port du masque, etc., donc une forme de fatigue pandémique, on n'observe pas nécessairement une fatigue climatique. En fait, nous, ce qu'on observe, c'est l'inverse, c'est qu'il y a, dans un contexte de pandémie, d'excellentes raisons pour les citoyens, mais aussi pour les gouvernements, d'agir de manière encore plus forte pour la lutte contre les changements climatiques. Et peut-être pour mettre en évidence certains de nos résultats, nous, on a observé qu'une majorité, finalement, d'adultes au Québec, donc plus que 60%, vivent déjà des perturbations liées au changement climatique. Et ça a des impacts importants sur leur santé mentale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut mettre l'emphase, c'est que on parle des changements climatiques comme si c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, qui va concerner les générations futures. C'est un peu un discours qu'on entend. Nous, c'est l'inverse qu'on montre. Les changements climatiques, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. 63% de la population québécoise disent ressentir aujourd'hui les impacts des changements climatiques. Et ça, donc là, on parle vraiment des impacts au niveau de dommages matériels, de pertes financières, de problèmes de santé directement associés au changement climatique. Ça touche toutes les régions du Québec et ça le fait de manière encore plus forte pour des populations qui seraient des groupes qui sont en situation de vulnérabilité, comme des personnes sans emploi, par exemple, ou des travailleurs dans le domaine de l'agriculture. Donc, s'il y a un message qu'on veut passer à la population, mais aussi au gouvernement, c'est qu'en fait, les changements climatiques, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et ça affecte la santé mentale aussi des populations. Donc, c'est des impacts directs sur la santé, mais c'est des impacts sur la santé mentale. Et c'est pour ça qu'il faut, selon nous, lutter de manière encore plus forte contre les changements climatiques, parce que non seulement il y a le phénomène direct des changements climatiques, mais il y a l'impact sur la santé mentale. Et durant la pandémie, on était tous d'accord pour préserver le système de santé, donc faire un maximum pour se protéger, se vacciner, pour pas aller alourdir déjà un système de santé qui était où il y avait beaucoup de demandes. Eh bien, les impacts sur la santé mentale, ça va augmenter la demande des soins de services de santé dans notre système de santé. Donc, si on veut préserver ce système de santé, ben, il faut lutter contre les changements climatiques. C'est un message qu'on veut porter.
Évidemment, évidemment. Juste pour revenir à votre la question de, parce que ça m'a titillé, mais la question de fatigue pandémique, oui, présentement, on n'a pas encore de fatigue, on pourrait dire environnementale, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait pas devenir de plus en plus présent à force qu'il y ait de la coercition par rapport, justement, à la protection de l'environnement? Moi, je le dis souvent, là, qu'il faut se préparer en avance au changement climatique, comme vous le dites aussi, parce que quand ça va frapper pour de vrai de notre côté à nous, et qu'il faudra commencer à rationaliser des trucs, par exemple les voyages ou les grands déplacements, ben c'est peut-être là qu'il va y avoir une certaine fatigue environnementale. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on serait pas mieux de... En fait, qu'est-ce que vous dites, c'est qu'on serait mieux de commencer maintenant au lieu de commencer plus tard, ou est-ce qu'on serait plus fatigué rapidement?
Exactement. Donc, nous, on avait un peu la même hypothèse que vous. Si on se disait, peut-être qu'on va observer un même phénomène là, que la fatigue pandémique, mais au niveau climatique. Mais c'est pas ce qu'on observe. En fait, c'est l'inverse, parce que il y a plus de la moitié de la population québécoise qui se dit prête à apporter directement des changements sur son mode de vie aujourd'hui afin de lutter au changement climatique. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, parce que on entend souvent ce discours que les changements sont trop importants, la population est pas prête. En fait, nous, notre panel de 10 000 personnes représentatives de la population québécoise, de toute cette diversité, ben, plus de la moitié de la population est prête aujourd'hui à apporter des changements importants. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas cette fatigue climatique. Okay. Et comme vous l'avez dit, ben, en fait, il ne faut pas attendre qu'elle survienne. Donc, il faut profiter de ce momentum un petit peu, on peut dire, indirectement causé par la pandémie, où on s'est rendu compte de l'importance des changements importants, de changements collectifs pour le bien commun. Durant la pandémie, elle a toujours eu la pandémie, on a accepté de limiter certaines de nos activités, certaines de nos libertés, pour le bien commun, pour protéger les populations vulnérables. Des fois, on l'a fait aussi, on n'avait pas l'ensemble des données, mais on avait des intuitions, des spécialistes nous disaient que c'est ça qu'il faut faire. Et ben, c'est la même situation dans laquelle on se trouve concernant les changements climatiques. On a de très bonnes données nous montrant que certaines actions vont aider, d'autres, c'est des hypothèses, mais il faut prendre ce risque-là parce que les conséquences sont extrêmement importantes.
Et ben justement, la COP26 vient de se terminer il y a peu de temps. Et c'est là, est-ce que, en fait, vous, votre pouls avec la fin de la COP26, est-ce qu'on est sur une bonne direction, ou est-ce qu'on la population devrait demander plus de mesures radicales à leur gouvernement, plus étatique, au lieu de se concentrer sur des grandes organisations telles que l'ONU puis la COP26, ben d'aller vraiment dire au gouvernement du Québec, c'est le temps d'agir?
Mais il y a deux choses dans votre question. Je pense que réalistiquement et de manière scientifique, c'est-à-dire en regardant la science, la COP26 a été c'est un échec, c'est un échec puissant. Donc ça, je pense que réalistiquement, il faut accepter, il faut affirmer, il faut reconnaître les et ça, c'est ce qu'on montre aussi nous dans notre sondage, c'est que cette incapacité à prendre des actions réelles et immédiates pour la lutte au changement climatique, ça cause un peu. Parce qu'il y a un écart extrêmement important entre la réalité vécue du changement climatique et les mesures qu'on promet pour 2040, 2050, 2060. Et ça, cet écart-là, ça cause de l'éco-anxiété. Donc, d'un côté, je pense qu'il faut reconnaître l'échec de la COP26. Et il faut non seulement demander plus de mesures, mais il faut mettre en place, je pense, individuellement ou dans nos communautés locales, des mesures, donc accepter de vivre dans des endroits plus petits, parce que le logement et l'habitat, c'est un espace de production de gaz à effet de serre extrêmement, extrêmement important. Il faut changer ses modes de transport, mais aussi, il faut, je pense, exercer notre pouvoir comme citoyen, qui est de pouvoir voter lors des élections pour des partis pour lesquels dans leur programme, il y a des mesures concrètes, réelles, de lutte au changement climatique. Donc, je pense que on peut critiquer les gouvernements, mais surtout, si on vote pour des gouvernements qui n'ont pas de mesures réelles de lutte contre les changements climatiques, mais on ne peut pas s'attendre à autre chose. Donc, il faut que les citoyens du Québec, les citoyens et citoyennes, prennent en main, exercent leur pouvoir, qui est d'aller lire les programmes des partis politiques et de voter pour les partis politiques qui ont un programme précis, concret de lutte contre les changements climatiques. Après, juste pour revenir sur la COP26 et l'ONU, ouais. c'est la COP26 en elle-même n'a pas de pouvoir autre que ce que les pays vont décider de faire. Il faut maintenir ces lieux de discussion, c'est extrêmement important. Donc, tu sais, il ne faut pas blâmer la COP26 en elle-même ou l'ONU en elle-même parce que ce sont des espaces de discussion, de dialogue qui se doivent de continuer. Ce qu'il faut blâmer, c'est les pays qui limitent ce travail de dialogue, qui limitent les grandes avancées. Donc, c'est important quand même de faire la nuance.
Ben oui, bien sûr, effectivement. Et en terminant, M. Blouin-Genet, est-ce que je sais, vous avez sûrement suivi aussi les élections municipales au Québec. On voit qu'il y a une certaine résurgence des mouvements plus citoyens, des mouvements plus environnementalistes à la gouvernance maintenant de plusieurs municipalités. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que vous pensez que ça va faire peut-être un effet domino sur nos autres paliers de gouvernement?
Absolument. Non seulement ça va faire un effet domino, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les changements climatiques se produisent, c'est-à-dire réellement, concrètement, l'émission des gaz à effet de serre se situe au niveau local. Ce sont dans les villes, par exemple, les grandes villes sont les principales sources d'émissions de GES et d'autres polluants. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus négatif, mais la bonne chose là-dedans, c'est que en exerçant notre pouvoir de citoyen lors des élections, et là, on semble observer progressivement un certain changement dans la gouvernance des villes au Québec et aussi ailleurs dans le monde, avec l'émergence de partis verts, par exemple, au niveau municipal.
Oui.
Je pense que c'est simplement une bonne nouvelle de la reconnaissance que la lutte au changement climatique ne passe pas nécessairement par ou uniquement par les gouvernements nationaux ou l'échelon national ou l'échelon fédéral. Il faut redonner du pouvoir à l'échelle locale. Les acteurs locaux, en fait, comme les grandes villes, vous vous rappelez quand les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Paris, la première réaction des grandes villes américaines a été de dire « Nous, on va continuer à respecter nos engagements de diminution des gaz à effet de serre. » Donc, même si l'État central se retire, les villes ont encore un pouvoir. Et je pense que c'est ça qu'on observe progressivement, une réappropriation du niveau local comme lieu d'expression du pouvoir. Et ça, c'est paradoxalement, des acteurs de relations internationales. Donc, il faut aussi rappeler que les villes ont le rôle à jouer sur la scène internationale.
Bien oui, effectivement, ça fait très le tour, M. Blouin-Genet. Merci beaucoup, professeur Gabriel Blouin-Genet. Vous êtes professeur à l'École de politique appliquée et également dans plein d'autres endroits. Et on a parlé justement de votre enquête, en fait l'enquête qui a été réalisée avec votre équipe sur ces 10 000 personnes qui a permis d'examiner l'état d'esprit actuel de la population québécoise à l'égard des deux grandes crises que nous traversons actuellement et leurs impacts psychologiques. Allez lire ça sur le site de l'université. Merci encore, M. Blouin-Genet, pour votre temps aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir.
Alors, de notre côté, eh bien, on continue.